Et on va avoir en entrevue avec nous Denis Tougaud de l'Entraide missionnaire. L'Entraide missionnaire qui fait partie de 5 ONG qui déposent une plainte contre Glencore International et First Quantum Minerals, donc des compagnies minières, si vous ne l'aviez pas compris en entendant leur nom, pour violation des principes directeurs de l'ECDE. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Alors merci beaucoup d'être avec nous.
J'en prie.
Peut-être un petit mot rapide pour présenter l'Entraide missionnaire, qui est une ONG tout de même bien connue à Montréal.
Oui, ça existe depuis 1958. Et puis, bon, depuis les tout débuts, les sociétaires, que sont les communautés missionnaires, ont voulu faire de l'Entraide un lieu de réflexion, de formation et maintenant de sensibilisation et de plaidoyer.
Donc, ce communiqué qui a été envoyé la semaine passée, donc c'est une action internationale pour porter plainte contre une compagnie pour évasion fiscale en Zambie. Alors, peut-être nous donner un petit peu le contexte de ce qui se passe en Zambie avec cette compagnie minière et de cette plainte qui est faite contre la compagnie.
Oui, certainement. Disons que cette initiative est insérée dans un ensemble au niveau international de groupes comme les nôtres, comme ceux qui ont porté plainte, pour faire en sorte que les entreprises étrangères dans des pays en développement comme la Zambie puissent agir conformément aux lois. C'est aussi bête que ça, mais effectivement, il arrive très régulièrement que ce n'est pas le cas. Pour ce qui regarde précisément ce cas-là, First Quantum et Glencore possèdent une entreprise sur place, Mopani Copper Mines, qui est une des plus importantes et qui est là depuis quand même un certain temps. Et puis, ce qui s'est produit, c'est que devant le volume normalement qu'une compagnie comme cela devrait produire, donc des revenus, le gouvernement s'est aperçu qu'il ne recevait pratiquement rien en termes de redevances, en termes d'impôts. Le gouvernement a demandé l'aide du gouvernement norvégien qui leur a fourni les services de deux entreprises d'audit international. Pour aller étudier la situation fiscale de cette entreprise en 2009. Ça a pris un certain temps, l'entreprise n'était pas très collaboratrice, mais les résultats sont assez, disons-le, scandaleux. Le rapport d'audit indique que l'entreprise fait vraiment de la manipulation des chiffres fiscaux et de la manipulation de leur rapport. Très brièvement, on élève les coûts de production, donc pour dire que ça coûte vraiment beaucoup plus cher qu'en réalité à extraire le minerai, et on réduit le taux de bénéfice. On dit donc qu'on vend beaucoup moins de produits que ce que l'on en retire. On s'est aperçu que cette compagnie vend son minerai à sa filiale, à la maison mère plutôt. Mais quand elle le vend, elle réduit les prix qui ne sont pas les prix du marché. Ceci fait en sorte que les chiffres de cette entreprise à chaque année sont réduits de 300 à 400 000 par année. Quand on sait déjà que cette entreprise peut se prévaloir de conditions vraiment avantageuses. Par exemple, l'impôt pour les redevances n'est que de 0,06%. Qu'ils ont des exemptions quand la compagnie veut importer des produits pour aider à l'exploitation. Ils ne paient pas d'impôt aux douanes. Peuvent rapatrier les bénéfices et ont un taux, ce que l'on appelle de stabilité de 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, cette entreprise va être soustraite aux lois qui vont être passées dans le domaine. C'est tout à fait scandaleux. C'est pourquoi, bon, pour un pays, la Zambie, qui est quand même un pays pauvre, hein, qui est classé dans l'échelle de pauvreté parmi les plus pauvres, et deuxièmement, qui, pour attirer les investissements étrangers, à donner des conditions mais vraiment très avantageuses à l'ensemble des entreprises. Voilà, c'est ce qui nous a poussé à l'Entraide missionnaire, mais aussi dans à la déclaration de Berne et le groupe Sherpa et le groupe Center for Trade Policy and Development de Zambie et Mining Watch au Canada, à porter plainte au point de contact national des principes directeurs de l'OCDE. Voilà, en résumé, ce qui s'est passé.
Puis le cas de la Zambie est quand même intéressant puisqu'en fait c'est un cas comme un peu un cas d'école, on pourrait dire avec un peu de cynisme puisque c'était des entreprises d'extraction de ressources naturelles qui étaient nationalisées avant les plans d'ajustement structurel dans les années 90.
Exactement. Quand le prix des matières premières a chuté, la plupart des pays africains ou en voie de développement qui basaient leur économie sur l'exploitation minière ont vu leurs revenus chuter de manière dramatique et se sont endettés pour pouvoir maintenir leurs services. Et c'est là que les programmes d'ajustement structurel et tout ce qui s'en est suivi depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Et dans ces programmes d'ajustement structurel, ce que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international a exigé, c'est la privatisation de l'ensemble du secteur. Donc, à partir des années 90, toutes les entreprises d'État ont été privatisées. C'est le cas dans l'ensemble des pays en voie de développement, particulièrement en Afrique. Avec des résultats, je vous donne l'exemple pour la Zambie. Le secteur minier, les entreprises minières ne contribuent maintenant que 4 % du budget total des entreprises, quand auparavant, ce pourcentage frôlait les 40 %. Il y a une diminution assez extravagante là.
Et donc, en ce moment, concrètement, votre démarche, c'est une plainte au point de contact de l'OCDE ici au Canada et donc ailleurs, j'imagine, de d'autres groupes. Concrètement, c'est quoi les possibilités, les espoirs d'impact qu'ont ce type de plainte-là?
Vous savez, quand une chose comme ça se produit, bon, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que la Zambie n'exige pas d'être remboursé. La situation est telle en Zambie que ce que l'on appelle leur ministère de revenus et l'autorité financière n'a pas la capacité, ni législative, ni humaine, d'intenter des poursuites. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que les entreprises font, des menaces en disant « Si vraiment vous nous poussez à bout, nous allons quitter. Nous allons aller amener nos investissements à l'étranger. » On connaît bien cette musique. Et la troisième raison, c'est qu'il y a au sein du gouvernement, et ça c'est assez connu, des gens qui ont participé aux négociations quand il y a eu la signature de ces contrats. C'est pourquoi on se tourne vers l'extérieur. Donc, au niveau international, il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'on peut porter ce type de plainte-là. Au Canada, et ailleurs dans le monde, il n'y a que le point de contact national de l'OCDE. Dans les années 70, tous les pays de l'OCDE ont tenté, ont dit qu'il faut mettre certaines des normes minimales pour le comportement des entreprises, toutes les entreprises dans les pays en développement. C'est ce que l'on a appelé les principes directeurs. Tous ces principes sont volontaires, n'appliquent aucune mesure contraignante. Mais c'est ce qui existe. Au Canada, dernièrement, l'année passée, le gouvernement, en réponse à un rapport d'une commission parlementaire canadienne qui demandait la constitution, la création d'un bureau d'ombudsman avec la possibilité d'enquêter et la possibilité d'imposer certaines mesures contraignantes, on a formé un bureau de conseillers en responsabilité sociale des entreprises qui, à mon avis, est tout à fait inoffensif. On a donc décidé de présenter cette plainte au point de contact national de l'OCDE, ici. Ce n'est pas la première fois. Ce point de contact, à la différence du bureau, bon, il y a beaucoup de similitudes. C'est volontaire. Hein? Si la compagnie ne veut pas, elle ne dit « Non, moi, je ne me présente pas là ». Cependant, le point de contact peut faire une certaine capacité d'enquêter les faits. Là, c'est assez facile puisqu'on a le rapport d'audit financier. Mais en même temps, à la toute fin, ce point de contact national va déterminer s'il y a eu violation ou non. Ce qui est nouveau, le bureau du conseiller, ici au Canada, ne fait même pas ça. On pourra dire que c'est minime, vous avez raison, c'est tout à fait minime, mais ce n'est pas insignifiant. Uniquement être nommé par cette institution officielle internationale comme ayant été en violation des principes directeurs de l'OCDE a des répercussions en bourse, a des répercussions au niveau de la réputation. Mais je le répète, c'est minime. Mais c'est tout ce que nous avons. L'an passé, il y a eu cette grande bataille au niveau du Canada pour faire adopter la loi C-300 qui permettrait, qui aurait permis à des entreprises, à des gens comme nous ou comme d'autres, de présenter au ministère une plainte de ce type et le ministère aurait eu la possibilité d'enquêter, de faire enquête et, si une compagnie est jugée fautive, de lui interdire l'accès aux services du gouvernement que sont les fonds d'exportation de développement Canada ou les services diplomatiques dans les pays en voie de développement, entre autres. Alors voilà où l'on en est.
Est-ce qu'il serait possible d'imaginer des plaintes au niveau judiciaire contre les compagnies canadiennes pour des crimes, qu'ils soient d'ordre financier ou même violation de droits humains flagrantes, comme on en voit beaucoup, d'imaginer un système dans lequel on pourrait poser des plaintes ici, en ce moment, avec l'état du droit actuel au Canada?
Oui, et c'est très limité. C'est limité au cas de violation importante des droits de la personne. Présentement, il y a plusieurs causes qui sont, plusieurs causes, j'en connais deux, qui sont devant les tribunaux canadiens. Plusieurs ont tenté d'amener des causes, mais ont été déboutés parce que les juges ont dit que le Canada n'est pas le bon lieu pour faire cela, retourner dans vos pays. Les deux causes, c'est entre autres l'assassinat d'un militant des droits de la personne ou des droits des communautés qui étaient touchées par des activités des entreprises minières canadiennes au Mexique. Et l'autre cause, c'est la compagnie Anvil Mining, qui est maintenant devant les tribunaux ici à Montréal, accusée d'avoir participé, d'être complice d'actes de guerre, de crimes de guerre au Congo en 2004. C'est très rare. Bon, les deux plaintes, est-ce qu'elles vont suivre leur cours? Est-ce qu'elles vont aboutir? Rien n'est sûr là-dessus. Sauf que c'est tout ce qui existe maintenant et on va le tenter. Pour une cause comme celle-ci de manœuvre, de manipulation fiscale, il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. L'autre cas qui peut être amené ici, c'est par exemple si des entreprises tentent de corrompre des fonctionnaires. Et ça, il y a une mesure ici, une réglementation internationale, et le Canada a traîné les pieds, mais maintenant a adopté ces mesures depuis un an ou deux, où, quand on a les preuves, on peut porter plainte ici pour ce type de manœuvre. Voilà. Mais c'est très restreint, on est encore au niveau international et au niveau légal dans un domaine qui ressemble à ce qui se passait au siècle dernier, pas le 20e siècle, mais le 19e siècle.
Et donc, si on veut avoir plus d'informations sur le suivi de ce dossier-là, mais aussi d'autres dossiers de plaintes, est-ce que vous auriez un site web, des médias alternatifs ou des événements à nous conseiller?
Oui, je vous suggère donc de consulter le site de l'entraide missionnaire, qui est facile à consulter, et celui de Mine Alert Canada, Mining Watch Canada, qui est l'organisation qui suit de plus près l'ensemble de ces procédures et de ces activités, de ces initiatives.
Merci beaucoup, Denis Touga, d'avoir été avec nous.
Mais je vous en prie.
Alors, nous étions avec Denis Touga de l'entraide missionnaire qui nous parlait donc d'une plainte déposée contre une compagnie aux intérêts canadiens en Zambie. Mais c'est aussi une situation de tentative de s'en prendre aux compagnies qui font des dégâts partout dans le monde, en fait, pas seulement en Afrique, de différentes façons. Fait que c'est une des stratégies qui nous était présentée aujourd'hui par Denis Touga. Donc,